Auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui lundi 21 avril, la 8e d'I Love Mes Cheveux, une émission diffusée 2 ou 3 lundis par mois, de 10h à 11h en direct et évidemment en podcast. On démarre avec 4 minutes de retard parce qu'il y a eu un bug technique que je ne m'explique pas. J'espère que tout fonctionne bien et que vous nous entendez. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal et à mes côtés aujourd'hui, une co-animatrice plus qu'une invitée, Claire Tasté, professeure de lettres au lycée Vaucanson et animatrice notamment du compte Instagram Vaucan Lettres. Claire, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme Claire partage ma vie depuis plus de 3 décennies, on ne va pas faire semblant, on va se tutoyer. Je close cette intro en rappelant qu'il y a un compte Instagram dédié, ILMC 2025, qu'on peut s'y abonner pour ne rien rater des annonces et des podcasts, et qu'on peut même commenter en direct sous la dernière publication, celle avec le nom de l'invité. Posez vos questions, on essaiera de garder un œil sur l'Insta. Alors, chaque émission commencera par la rubrique Le mot du jour, ou commence par la rubrique Le mot du jour, on en est déjà à la 8e émission, je ne sais pas pourquoi j'utilise encore le futur. Pour l'instant, c'est moi qui l'anime, mais s'il y a des volontaires qui veulent rejoindre l'équipe, welcome, welcome. Et aujourd'hui, l'œuf et la chèvre. Alors, ce n'est pas une fable méconnue de Jean de La Fontaine. C'est, une fois de plus, une réflexion autour du plurilinguisme. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, c'était il y a 4 semaines, ça remonte, j'avais évoqué la notion d'intraduisible et j'avais argué qu'on en fait en général tout un foin, mais qu'au fond, peu de choses sont franchement intraduisibles. Et parmi les exceptions, il y a les jeux de mots translinguistiques. Cette semaine, Pâques oblige, j'ai aperçu sur une page Facebook en allemand une publication avec « I love you », mais « I » écrit « EI », ce qui signifie « œuf » en allemand. On pourrait essayer de traduire « je », « e » au pluriel, hein. « Vous aime », c'est pas facile à la radio, mon histoire. Allez, je dédie cette traduction, cette tentative de traduction d'un jeu de mots à Mario Dravé, qui fut notre deuxième invité. Si je poursuivais sur ce jeu de mots, toujours pour Pâques, je pourrais combiner le slogan de la série X-Files, bien-aimé de notre invité du jour, avec le pluriel du nom « œuf » en allemand. « La vérité est ailleurs ». Ouais, bon, c'est le pluriel de « ail » en allemand. Bref, c'est pas terrible. Cela doit aussi vous faire penser au titre de notre émission, emprunté, je le rappelle, à un vrai salon de coiffure vu à Melbourne en 2010, « I love mes cheveux ». Au moins, il n'y a pas de jeu de mots, donc si on voulait le traduire, eh bien on n'aurait au moins pas de jeu de mots à traduire. Je vous rappelle que j'ai annoncé l'œuf et la chèvre, donc deuxième partie de la fable qui n'en est pas une. Connaissez-vous l'expression « goat » qui s'écrit comme le mot anglais « chèvre », G-O-A-T, mais qui est en fait un sigle et même un acronyme « greatest of all times ». Sur un compte Instagram, on a pu lire récemment, après sa victoire dans je ne sais quelle improbable course cycliste, mais quel goat ce Remco Evenepoel. Je prononce mal, mais notre précédent invité, Bernard de Meyer, dont la langue maternelle est le flamand, pourrait me corriger. Vous l'avez peut-être remarqué, je vais essayer de faire des petites dédicaces et des clins d'œil à tous nos précédents invités. Ce qui est amusant, c'est qu'en français, dans les sports de balle, ou de ballon notamment, jouer comme une chèvre, ça veut dire être archi nul. Donc la première fois que j'ai lu un truc du genre « Messi est un goat », je n'ai pas compris pourquoi c'était un compliment, car j'ai d'abord découvert l'expression en français. Imaginez à présent quelqu'un qui ferait une vanne en français en jouant sur le double sens. Par exemple, Messi, c'est le goat, mais ce n'est pas une chèvre. Bon courage pour traduire ça. Éric Rambaud, notre quatrième invité, aura-t-il une idée? Alors, nous allons passer à notre invitée, notre co-animatrice du jour. Alors au départ, je m'étais dit aujourd'hui, pour le lundi de Pâques, que j'allais faire une émission en solo, juste histoire de tenir ma promesse de 2 émissions mensuelles au moins. Et puis donc, Claire, j'ai réussi à te convaincre de venir parler ici d'une maison d'édition dont tu suis le travail presque depuis le début, c'est les éditions...
Des paysages.
Voilà, des paysages en un seul mot. Et je crois que tu veux notamment nous parler de plusieurs livres traduits de 2 langues différentes, notamment l'Inuktitut.
Oui.
Alors au départ, j'avais prévu de parler du podcast de langue à langue. Donc, je vais vous dire tout ce dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais ça vous lance des petites pistes comme ça. Donc le podcast de langue à langue que je vous invite à aller découvrir et grâce auquel j'ai notamment découvert un essai de Jhumpa Lahiri que je vous recommande, « Translating Myself and Others ». Tous les liens seront comme d'habitude sur la page web de l'émission. Je m'étais aussi dit que j'allais parler un peu en détail de Julien Jacob, chanteur qu'on entend au début de chaque émission et qui chante dans une langue qu'il a inventée. Et puis Claire, on a discuté de ça et on s'est dit qu'il y avait de quoi faire une émission sur les langues inventées.
Tout à fait.
Voilà, donc tu reviendras pour ça. Et puis si des auditeurs, auditrices sont intéressés par le sujet, qu'elles nous fassent signe. Peut-être que comme ça, on m'empêchera de parler de Montplaisant de Patrice Nganang, de la langue inventée par le sultan Djoya, le Chupamum, et des alphabets également inventés par ce monarque et écrivain camerounais qui est au centre du roman époustouflant et génial de Nganang. Alors Claire, tu ris parce que je bassine tout le monde avec Nganang depuis un petit moment déjà,
ouais.
Donc, et toi notamment. Mais voilà, donc si vous voulez, on prend d'ores et déjà date pour une autre émission avec Claire et éventuellement avec d'autres personnes autour des langues inventées. Et je pense aussi qu'au vu de tes centres d'intérêt, on pourra éventuellement aussi faire ensemble une émission sur les romans graphiques, sur la question de la traduction et du plurilinguisme dans cette forme très spécifique. J'en profite pour saluer notre toute première invitée, Louison Millet, qui était venue ici le 13 janvier pour la toute première et à qui on souhaite bonne chance pour sa fin de Master 1. Et bien donc, après avoir parlé des choses dont on ne parlera pas, on va parler des choses dont on va parler. Oula. Ouais, bon bref, ça va, je réussis encore à te faire rire. Alors, oui. Des paysages en un seul mot. Donc déjà, c'est comme on est à la radio, il faut bien le dire, si vous cherchez sur le web, ce sont donc les éditions Des Paysages, mais ça s'écrit comme le dépaysement, mais avec âge à la fin. Et peux-tu nous dire d'ores et déjà comment tu as découvert cette maison d'édition, qui est une petite maison d'édition indépendante ?
Oui, alors j'ai découvert cette maison d'édition complètement par hasard, en réalité, dans une librairie de Tours que je fréquente assidûment. On était juste avant le grand confinement. Donc on ne savait pas encore qu'on allait être confiné, mais bon, voilà, c'est un repère chronologique fort dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc, j'ai vu sur un des étals de la librairie un livre qui a attiré mon œil, d'abord par son aspect graphique. Alors, il faut savoir que Des Paysages a une très forte identité visuelle. Hein. Toutes les couvertures sont faites par un graphiste, un artiste qui s'appelle Olivier Mazoué. Et qui crée un univers assez particulier. C'est des très beaux livres. Le premier livre que j'ai lu de chez Des Paysages, c'est le livre alors qui est très connu maintenant, hein, mais que c'est quand même les éditions Des Paysages, il faut le dire, hein, qui l'ont édité en tout premier. C'est le livre de Michel Jean, Coucoum, qui a eu un succès depuis phénoménal et qui a été dont les droits ont été rachetés par une grande maison, hein, du coup. Peu importe. Mais c'est comme ça.
Peu n'importe pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est malheureusement des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont vraiment découverts, portés. Enfin, et Michel Jean en est un exemple, par une maison d'édition indépendante. Et qui ensuite passe sur des plus grandes maisons. Bon, c'est comme ça.
Oui, alors ça serait vraiment. Enfin, il faudrait beaucoup de temps pour parler de ça. Mais effectivement, donc voilà, c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert cette maison d'édition. Et cette maison d'édition, elle a une particularité, c'est qu'elle n'édite que des auteurs autochtones d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis. Voilà, c'est la ligne éditoriale, qui est une ligne éditoriale très singulière et très forte. Voilà, et grâce à cette maison... Alors, je connaissais quelques auteurs autochtones et autochtones avant de m'intéresser et de tomber sur cette maison d'édition. Mais c'est vrai, et j'avais un fort intérêt, mais c'est vrai que cette maison d'édition a changé mon intérêt à une petite passion, on va dire, pour ces auteurs et ces autrices autochtones d'Amérique du Nord.
Ah, voilà. Tu peux juste nous citer deux ou trois, des autrices notamment que tu lisais avant et qui ne sont pas éditées chez Des Paysages pour qu'on...
Oui, alors je lisais celle qui est le plus connue, je pense, en France, qui s'appelle Joséphine Bacon, qui est éditée principalement, peut-être uniquement, je ne sais plus, chez Mémoire d'Encrier. Joséphine Bacon, c'est une autrice, c'est une poétesse, Inoue. Je vais reparler des Inoues, qui a quand même un certain succès en France. Donc elle, je la lisais. Et je lisais aussi Naomi Fontaine, pareil, c'est une autrice inoue, mais qui écrit elle exclusivement en français et qui est éditée, ben, je crois, chez Mémoire d'encre aussi, je ne sais plus trop.
J'avoue, parce qu'on l'a lu il y a un moment.
Voilà.
Naomi Fontaine, alors tu dis qu'exclusivement en français, ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais c'est pour dire aussi que quand les textes sont écrits en anglais ou en français, ça fait partie de ces textes qui sont quand même à très forte tonalité plurilingue, à savoir qu'il y a souvent des termes quand même des langues non européennes qui sont inscrits dans le texte, avec ou sans glossaire, etc. Mais voilà, et c'est le cas, me semble-t-il, parce que je ne l'ai pas lu récemment, de Naomi Fontaine, hein, aussi, où on a quand même beaucoup de...
Le titre, déjà, Kwesipan,
oui, par exemple. Et le titre du livre de Michel Jean, par lequel tu l'as découvert, c'est Kokoum, ça veut dire grand-mère en Inuaimoun.
Oui, il y a des termes d'Inuaimoun dans le livre de Michel Jean aussi.
Donc vous avez déjà, avant même qu'on ait attaqué le plan de résistance, les auditeurs, auditrices ont déjà pu commencer à constituer une bibliographie. Si vous n'avez jamais lu Joséphine Bacon ou Naomi Fontaine, Kukum de Michel Jean, il faut lire ces livres.
Ah ben il faut lire, peut-être que si dans les titres, enfin dans les noms, hein, j'aime pas faire des hiérarchies, mais dans les noms que l'on a cités, s'il faut en lire... Une, c'est Joséphine Bacon. Mais il faut tous les lire. Hein, mais voilà.
Après, il faut aussi signaler qu'il y a des questions de genre aussi. Il y a peut-être des gens qui ne lisent pas beaucoup de poésie.
Ouais.
Joséphine Bacon, c'est de la poésie. Oui. On aura l'occasion, j'espère, d'en lire un petit peu pour donner une idée. C'est une poésie extrêmement aphoristique, enfin très très brève. Enfin,
c'est
une forme extrêmement brève, extrêmement...
Oui, c'est une esthétique vraiment de la brièveté, plus que de la simplicité d'ailleurs. J'aime pas du tout dire ça, mais de la brièveté à coup sûr. Hein.
De la concision.
Enfin, oui. De la sensorialité aussi, en fait.
Donc on a un petit peu déjà commencé à parler des littératures autochtones nord-américaines et notamment canadiennes, parce que là, l'auteur et les deux autrices qu'on a évoquées sont tous les trois canadiens. Alors évidemment, si on se réfère à des entités nationales héritées du colonialisme, bien sûr, hein, ce qui n'est pas sans... Oui.
J'ai oublié de dire quelque chose sur les éditions des paysages. C'est qu'au départ, ces éditions qui ont été fondées par Amaury Le Villayer, hein, qu'on salue ici, ces éditions ont commencé à éditer de l'anthropologie. Toujours pareil, hein, une anthropologie consacrée aux autochtones d'Amérique du Nord. Et puis très vite, elles ont développé plutôt finalement une veine littéraire, avec cette idée que finalement la littérature était quelque chose qui parlait à un plus grand nombre. Et donc c'était quelque chose finalement qui pouvait peut-être mieux se vendre. En réalité, et surtout s'ouvrir à un très très large public. Et aujourd'hui, quand on regarde le catalogue de la Maison des Paysages, c'est plutôt la partie littéraire qui a été développée, avec une ouverture récente même à la poésie.
Oui, alors j'allais le dire, effectivement, c'est en plus même il y a une espèce de l'anthropologie vers des textes de fiction, maintenant vers des textes qui peuvent... paraître plus strictement littéraire que sont les textes poétiques, puisqu'il y a une partie quand même du catalogue, me semble-t-il, mais moi j'ai lu très peu de choses par rapport à toi dans ce catalogue. Il y a une partie du catalogue de romans ou de fiction qui peuvent être considérés ou qui ont pu être considérés, mais ça va faire partie de ce dont on va parler, comme des documents anthropologiques. Alors parfois d'ailleurs, peut-être au mépris de leur valeur littéraire. Mais c'est pour dire que voilà, c'est une maison qui a évolué les sciences humaines vers une identité beaucoup plus littéraire. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a une porosité entre différentes formes aussi de textualité. Donc c'est aussi cet aspect-là, mais c'est un aspect effectivement important. Alors, avant de faire une première pause musicale et justement d'entendre notamment les langues dont on parle aujourd'hui, parce qu'il faut bien préciser que tu ne parles pas Inuktitut ou Inuaimoun.
Absolument pas.
Voilà, donc non, mais il faut le dire quand même. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler de traduction, parce que tu as accès à ces textes-là grâce à l'existence de traducteurs et de traductrices qui sont des passeurs et des passeuses de ces textes-là.
Oui.
Donc avant d'entendre une première pause musicale, est-ce que justement on peut rapidement parler d'un point de vue linguistique ? Donc l'Inuktitut et l'Inuaimun, ce sont deux langues différentes, même si aujourd'hui on va parler éventuellement de textes traduits de ces deux langues, puisqu'ils sont présents au catalogue de la maison d'édition. Est-ce que rapidement tu peux...
Oui, alors c'est deux langues totalement différentes et deux peuples totalement différents. Alors c'est vrai que les sonorités peuvent prêter à confusion pour nous, Français et Occidentaux. Mais donc l'Inuktitut, c'est la langue des Inuits. Donc voilà, je pense que ça, les Inuits, tout le monde les place à peu près hein, sur une carte du monde. Hein, c'est le très 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 grand nord, donc ça va. Et l'Inuaimun, c'est la langue des Inuits. Alors les Inuits, hein, on les place moins. Les Inuits, hein, donc ce sont des autochtones du Canada. Et alors, pour le faire très simple et donc très faux, c'est un peuple avec plusieurs groupes qui sont des nomades hein, traditionnellement, qui vont évoluer autour du lac Saint-Jean au Québec. Voilà. Hein. Le nom colonial, c'était les montagnés. Voilà. Mais évidemment, on ne l'utilise plus. Et donc, les Inuits.
Non, mais il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être rencontré déjà ça ou qui ont entendu parler de ça, parce que ça traîne encore pas mal quand même, la langue montagnaise ou le peuple, les montagnés. Donc, AIS à la fin, mais c'est effectivement une terminologie coloniale. C'est un peu comme dire. C'est un peu comme Eskimo par rapport à Inuit. Un peu.
Voilà, c'est exactement
des termes,
ça.
C'est des termes qui sont maintenant vraiment rejetés et disqualifiés.
Voilà. Hein. Donc, c'est des groupes linguistiques et des peuples hein, qui n'ont pas grand-chose à voir.
D'ailleurs, si on veut vraiment préciser, l'Inuktitut, c'est une des langues inuites, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est une des langues inuites, puisque le groenlandais est une autre langue inuite. Donc, ça veut dire que les langues inuites, c'est un groupe de langues qui ont une très grande... Oui, je fais des gestes tout en... je ne peux pas m'empêcher. Donc, j'ai tapé le micro. Donc, si vous avez entendu un plonk, bon, bah, bref. C'est moi qui ai tapé le micro, donc c'est merveilleux. Donc, déjà, je n'arrive pas à lancer l'émission sans y mettre 4 minutes, mais en plus, je casse le matériel. Donc les langues inuites ont une plus vaste extension géographique et il y en a plusieurs, dont l'Inuktitut. Alors que l'Inuaimun, en fait, donc, qui s'appelait le montagnier, a une extension géographique beaucoup plus étroite, avec un nombre de locuteurs nettement...
Alors, l'extension géographique étroite... Alors, je suis vraiment pas spécialiste.
Et
en plus, je suis nullissime en géographie. Donc ça, Guillaume peut le confirmer. Mais
jamais je m'autoriserai ça.
En réalité, je crois que c'est assez étendu. Il y a plusieurs groupes...
Parce que je crois, enfin, pour avoir vu le nombre de locuteurs, locutrices est quand même nettement inférieur. C'est d'ailleurs assez étrange parce que je n'ai pas fait des recherches poussées. Pour le coup, je me suis contenté de la Wikipédia. Mais Wikipédia donne 10 000 locuteurs, ce qui paraît très, très, très faible par rapport à la production de chansons, de littérature. Enfin, on n'est pas spécialiste, donc on ne va pas prétendre l'être. Mais on va parler de littérature dans quelques instants. Après une première pause musicale. Et on va écouter un morceau d'un groupe, d'un duo en fait, d'un duo qui a eu son heure de gloire. Il faut juste que je retrouve mes notes. Ah oui, ce n'était pas sur la bonne page. Donc c'est un duo qui s'appelle Kashtin, K-A-S-H-T-I-N. On va écouter un morceau qui s'appelle Chinanu, qui date de 1989. Et en fait, c'est un duo qui chantait en Inuaimun. Donc là, on est sur l'Inuaimun, hein, continuons à ne pas confondre. Il a eu un gros succès dans les années 80-90, plus en fait en Amérique du Nord et dans le monde anglophone. Et vous allez voir pourquoi peut-être, mais je pense que ce morceau va plaire à celui qui fut notre troisième invité, Bayan Ramdani, qu'on salue bien. Et donc, on écoute tout de suite Chinanu de Kashtin. Chinanu, Chinanu, oh, what you don't. de retour dans le studio de Radio Campus Tours avec Claire Tasté pour parler de littérature traduite de l'Inuktitut et de l'Inuaimun. Alors, en l'occurrence, là, on vient d'entendre, donc, je le rappelle, le groupe Kashtin Chinano, que je ne prononce pas bien du tout, mais on l'a entendu, donc on pourra rectifier. Donc là, c'était de l'Inuaimun, et pour les personnes qui voudraient lire des textes traduits de l'Inuaimun, et notamment en version bilingue, il y a les poèmes de Joséphine Bacon, me semble-t-il.
Oui, Mémoire d'Encrier publie les poèmes de Joséphine Bacon dans les deux langues, puisque Joséphine Bacon écrit à la fois en Inuaimun et en français.
Et puisqu'on parle de ça, est-ce que tu as un poème éventuellement à nous lire ? Alors en français, on va pas se risquer à lire l'Inuaimun.
Oui, ah bah non. oui, je vais vous lire peut-être le poème d'ouverture de Ouyesh quelque part. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant.
C'était Joséphine Bacon, et donc là, on était dans la partie Inuaimun, et on va glisser vers l'Inuktitut. Donc, on a fait la distinction entre les deux, donc j'espère que tout le monde a suivi. Et tu voulais notamment nous parler d'un texte qui compte beaucoup pour toi, qui est un roman qui s'intitule Sanaak. Est-ce que voilà, tu peux nous en parler ?
Oui, tout à fait. Alors, Sanaak, c'est un roman d'une autrice Inuk, du Nunavik, qui s'appelle Mityarjuk Napaalaouk.
Alors, c'est un peu... Toutes les références seront sur le site web, voilà. La page web de l'émission. Hein,
Alors, je le redis, hein, je n'ai évidemment aucune compétence linguistique sur une quelconque langue autochtone. Donc, la manière dont je viens de prononcer le nom de l'autrice est probablement extrêmement approximative. Pardon. Donc, ce roman, Sanaak, je vais peut-être, puisqu'on est sur une émission quand même qui s'intéresse aux langues et à la traduction, je vais le contextualiser un peu parce qu'il a une histoire un petit peu complexe en termes d'écriture et de traduction. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce roman, il va être écrit en plusieurs temps, mais son écriture va commencer dans les années 45, 50, je ne sais pas trop exactement, mais 45, je pense. Ce roman, c'est une commande. C'est la commande d'un missionnaire, alors dont j'ai oublié le nom, je crois qu'il s'appelle Robert Lechat. Ce missionnaire, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut consigner cette langue... cette langue Inuktitut, il va en garder des traces parce que ce qui l'intéresse, lui, comme souvent les missionnaires, c'est de pouvoir traduire dans cette langue les textes sacrés pour l'évangélisation. Et donc, il va demander à une jeune femme qui s'appelle Mityarjuk Napaalaouk de consigner le plus de phrases possibles dans sa langue. Et pour cela, il va lui apprendre à écrire en écriture syllabique. Alors, l'écriture syllabique, c'est une écriture très particulière qui permet de consigner des syllabes, comme son nom l'indique.
Alors, ce sont des signes, il faut dire ça. Ça n'a rien à voir avec l'alphabet latin ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une écriture qui est complètement distincte de tout autre alphabet ou système d'écriture préexistant. Il a été, me semble-t-il, créé pour cette écriture-là.
Alors, je ne sais pas s'il a été... Non, il n'a pas été créé pour cette écriture-là. Mais, en tout cas, je ne sais pas s'il a été créé par les missionnaires ou si c'était créé avant. En tout cas, c'est quelque chose que les missionnaires au Canada ont beaucoup utilisé pour consigner à l'écrit des langues qui n'avaient pas a priori d'écriture. Donc, par exemple, pour les Cris, hein, qui est un autre groupe autochtone amérindien, ça a été utilisé, ça va être utilisé après pour les Inuk, pour l'Inuktitut. Donc voilà, il va y avoir d'abord, Mityarjuk Napaalaouk, elle a cette consigne qui lui est donnée de transcrire le maximum de phrases dans lesquelles on aurait des tournures syntaxiques de l'Inuktitut, mais aussi, bien sûr, du vocabulaire utilisé par les Inuits. Et donc, on va avoir beaucoup de vocabulaire technique qui concerne la vie quotidienne, la chasse, hein, parce que quand même, la chasse prend une grande partie du temps, de ce peuple, qui est un peuple nomade. Et voilà, donc ça, c'est le premier état du texte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Mityarjuk Napaalaouk, elle va se trouver très vite à l'étroit. dans ce cadre qui lui est donné. Et en réalité, elle ne veut pas faire un manuel de survie sur la banquise ou un manuel linguistique. Elle veut raconter des histoires. Donc, elle va déborder ce cadre et elle va écrire un récit. Et ça, c'est assez passionnant.
Donc en fait, ça commence un petit peu, tu m'arrêtes si je me trompe, ça commence un petit peu comme un texte qui a pour fonction d'être un répertoire pour une méthode assimile un petit peu. Enfin, c'est presque une sorte de... Oui. Il n'y a aucune espèce d'œuvre, d'œuvre a fortiori littéraire, ni de lien entre les différentes phrases ou les différents récits qui lui sont demandés. Donc c'est vraiment de l'application syntaxique et lexicale. Ouais. En fait,
sauf que dès le début, elle va faire du sens, en fait, et elle va créer quelque chose. Donc voilà, je vous lirai le début tout à l'heure, je pense qu'on verra bien ce qui se passe. Et c'est très intéressant parce qu'on voit se former un récit, en fait, sous nos yeux, en fait. On est dans aussi un laboratoire d'écriture, et ça, c'est assez passionnant. Et il y a un deuxième état du texte, une deuxième traduction, en quelque sorte, qui va être faite par un grand anthropologue qui s'appelle Bernard Saladin d'Anglure. C'est vraiment un grand, grand anthropologue. Il est mort en février dernier, très âgé. C'était un élève de Lévi-Strauss. Et Bernard Saladin d'Anglure, il va aller à la rencontre de Mityarjuk Napaluk. Il fait sa thèse dessus. Et c'est lui qui va, avec elle, avec son accord, transcrire le texte dans notre alphabet latin. Et il va aussi l'enregistrer. Il y a des bandes son de l'autrice en train de dire son texte. Bon, voilà, il va faire tout un travail très, très anthropologique sur le texte. Ce qui est évidemment quelque chose d'incroyable parce qu'il met ce texte à notre portée. Il rend ce texte lisible pour nous. Mais en même temps, et c'est absolument pas une critique que je vais faire, qui suis-je en fait pour apporter une critique à ce grand anthropologue. Mais quelque part, tout son travail anthropologique va cacher le caractère littéraire de ce texte. Pas consciemment, mais va en fait en le scientifisant, je ne sais pas comment on dit.
Oui, scientifisant.
Je ne sais pas, c'est un néologisme. Mais on peut
En l'anthropologisant.
L'anthropologisant.
Ça, c'est quelque chose d'assez répertorié, c'est assez classique en fait, cette espèce de confiscation de la.
C'est pas qu'il va confisquer, mais il va faire écran. Parce que ce n'est pas son propos.
Oui, de masquage, de dissimulation,
non
délibéré.
Et au final, il y a un autre grand malentendu sur ce texte, c'est que quand on lit un peu de critique, parce que ce texte, il a quand même été couvert par la critique scientifique, on va dire, c'est pas du grand public, mais quand on lit des choses sur ce texte, on dit « Oh, mais c'est incroyable, cette autrice qui écrit un roman, alors qu'elle ne sait même pas ce que c'est un roman ». Oui, elle ne sait pas ce que c'est un roman, mais elle sait ce que c'est une histoire. En fait, il y a derrière toute une tradition orale. Et Mityarjuk Napaluk, elle vient d'un peuple dans lequel on se transmet des histoires, dans lequel on s'est créé des personnages, par exemple.
Il y a une approche extrêmement verticale, eurocentrée,
étonnant.
Un peu condescendante un petit peu finalement.
Pas de la part de
Saladin Anglure,
parce
que c'est comme ça qu'est construite la culture.
Dans la réception, elle ne sait même pas ce que c'est un roman, elle invente le roman. Mais attendez, le roman c'est une forme de récit. Et le récit, elle sait très bien ce que c'est. Elle n'a pas attendu qu'on lui apprenne l'écriture syllabique pour raconter des récits. De ce point de vue-là, je trouve que c'est un texte qui est vraiment passionnant, en fait.
Alors, je veux juste te dire, pour nos auditeurs, auditrices qui ne souhaiteraient pas attendre que l'émission soit podcastée, que la page web soit mise en ligne, que si vous tapez Sanaak, donc ça s'écrit S-A-N-A-A-Q, des paysages sur Google, vous tombez comme premier résultat sur la page du livre chez l'éditeur. Et il y a aussi des pages Wikipédia qui ont l'air assez intéressantes, tant pour Bernard Saladin d'Anglure, d'ailleurs, disparu récemment, comme tu le disais, que pour l'autrice Mityarjuk Napaluk. Je vais y arriver. Et d'ailleurs, si vous voulez trouver la page Wikipédia de l'autrice, à partir en fait de la page Wikipédia de Saladin d'Anglure, c'est possible aussi. Bref, donc ça, c'était aussi pour, si vous voulez aller naviguer dès maintenant sur le web. Donc ce texte, finalement, ce qui t'a intéressé en lui, c'est avant tout sa dimension littéraire. C'est-à-dire à la fois la dimension littéraire et le fait qu'il n'est pas... que cette dimension-là ait été un petit peu invisibilisée au fil des étapes, en fait.
Oui, alors il y a évidemment, hein, comme les éditions des paysages, c'est des éditions encore une fois, hein, très complètes, très sérieuses, très, très, avec des livres extrêmement aboutis. Il y a une préface importante qui raconte la genèse de ce texte. Mais en réalité, si on ne lit pas cette préface, on va pouvoir lire le livre. On va se dire, OK, c'est un récit, c'est un roman. Mm-hmm. Il y a des personnages, il y a de l'événementiel. Le titre, Sanak, c'est le nom de l'héroïne. Mm-hmm. Et c'est une héroïne qui est très forte. C'est une femme qui a une agentivité extrêmement forte, qui et c'est elle qu'on suit, même s'il y a d'autres personnages. Et voilà, on va se dire, bon, bah ouais, d'accord, j'ai lu un récit, j'ai lu un roman.
Donc là, la traduction, elle est de Saladin Anglure ?
Bah, la traduction, c'est une transcription en alphabet.
Non, mais je parle du texte français.
Oui.
Parce qu'il y a l'état syllabique, ensuite il y a les questions de translittération, mais parce qu'il me semble qu'il a été... Là, je me suis aidé de mes antisèches avec Wikipédia, toujours, mais Wikipédia indique, ça va permettre de fact-checker en direct la Wikipédia, qu'il l'a traduit et ça a été édité en français en 1983, et que c'est une version entièrement revue en 2022 aux éditions des paysages.
Oui, il l'a revue...
C'est lui qui l'a revue.
Tout à fait, oui.
Alors, il me semble, mais là je...
Il était professeur en anthropologie à l'université de Laval à Québec jusqu'à la fin, puisqu'il était professeur émérite.
D'accord.
Et c'est lui-même, oui, qui a revu toute cette traduction. Mm. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit une préface pour la réédition chez Des Paysages.
Alors il faut dire que les livres des éditions des paysages sont très beaux, en plus ils sont très agréables, ils sont très agréables pour les gens qui n'ont pas une très bonne vue aussi, je le précise.
C'est-à-dire que, tout à fait.
Alors un petit peu moins la collection poésie récente, mais les livres, les grands formats et les romans se lisent de manière très agréable. Ça c'est pour le petit détail. Je dois totalement m'en mêler les pinceaux, mais il me semble aussi, mais là peut-être que je vais te piéger, je sais pas, tu le dis, mais il me semble qu'il y avait un livre aussi, ça vient de me revenir, qui a été republié par les éditions des paysages, parce qu'en fait il y avait une première traduction traduite de la traduction anglaise, il me semble.
Ah oui, c'est compliqué.
Parce que c'est des choses moi qui m'intéressent toujours beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a une première version du texte qui est rendue disponible pour un lectorat, le lectorat français, mais à partir d'une traduction. C'est-à-dire qu'il y a des traductions de traductions. Et les éditions des paysages, elles ont fait cet effort-là de faire retraduire ce roman à partir de l'original.
C'est le roman, alors c'est pareil, hein, c'est un roman du Grand Nord, là, de Marcousi Patsok, Kamik, chasseur au harpon, qui a été écrit une première fois, alors que je ne dise pas de bêtises, hein, en Inuktitut.
Je peux chercher.
Alors je ne sais pas si cette première fois avait été publiée ou pas. Puis ensuite, il a été traduit en anglais. Mm-hmm. C'est cette traduction qui a eu énormément de succès dans les années 60-70, 60 je crois.
Oui, c'est Inuktitut, hein. On est bien
d'accord. Voilà. Et ensuite, il y a toute une... plusieurs années qui vont se passer. Et pour qu'enfin le texte, parce que le texte avait été traduit en français à partir de la traduction anglaise, et pour que le texte français soit retraduit à partir de la traduction de la version Inuktitut. Donc c'est très compliqué parce qu'en réalité, si mes souvenirs sont bons, c'est un texte que j'ai lu aussi, qui est aussi passionnant, hein, mais c'est un peu lointain. Et si mes souvenirs sont bons, en plus, la version en anglais avait euphémisé ou même carrément coupé certains passages. Je ne sais
D'accord.
plus.
En tout cas, oui, c'est vraiment c'est pas une retraduction, c'est une traduction, la première vraie traduction, c'est-à-dire à partir du texte original Inuktitut et pas à partir d'une traduction.
Ouais.
C'est ce qui est quand même. Et c'est quelque chose qui s'est fait pendant très longtemps pour le japonais, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de romans de Mishima, par exemple, qui ont été disponibles en français d'abord par des traductions de la traduction américaine. Mmh. Bon, bref, on a évidemment à peu près arrêté de faire ce genre de bêtises maintenant, mais bon, c'est important à signaler. Voilà, donc un autre conseil de lecture, mais allez vous perdre dans le catalogue des éditions des paysages.
On peut tout lire dans le catalogue des paysages.
Voilà, donc là, c'était Marcousi Patsok, Kamik. Alors, les titres sont quand même relativement faciles à retenir. Sanak, Kamik, voilà, vous pouvez retrouver. Et puisqu'on parle d'Inuktitut, on va faire une deuxième pause musicale en allant écouter un choix musical de notre invitée co-animatrice, Il s'agit d'une chanson d'Elisa Pi. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots avant que je lance
Arnaque? Oh, Elisa Pi, c'est une artiste, une musicienne qui est très connue hein, en Amérique du Nord et au Canada et qui chante en Inuktitut. Elle a plusieurs albums à son actif, le dernier étant un album de cover.
Mmh, absolument.
Voilà, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le plus intéressant. C'est pas par celui-là qu'il faut commencer.
Je pense que l'album d'où est tiré le titre qu'on va entendre, c'est The Ballad of the Runaway Girl. Et je pense qu'on peut conseiller cet album-là qui est très bien.
Ah, il est superbe.
Et dans l'album de cover, on peut le signaler parce que je n'oublie pas d'essayer de continuer à faire des petites dédicaces à tous mes précédents invités. On trouve quand même sur l'album de cover une version bluffante et décoiffante. C'est aussi une allusion au titre de l'émission, de That's No Way to Say Goodbye de Leonard Cohen, mais en Inuktitut, puisque c'est des covers en traduction Inuktitut. Donc ça, il faut quand même le signaler. C'est quand même un des intérêts de l'album. Là, on va écouter un original, un des tubes un petit peu d'Elisa Pi, hein, Arnaque, ce qui veut dire femme, je crois, en Inuktitut.
Thank you.
et on revient en studio, toujours avec Claire Tasté, pour parler des éditions des paysages, des langues autochtones amérindiennes, notamment de l'Inuktitut. On vient d'entendre Elisapi, Arnaque, ça date de 2019, c'est tiré d'un album dont j'ai déjà oublié le titre, The Ballad of the Runaway Girl, je crois. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permet de m'en rappeler. Voilà, un morceau que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc pour faire entendre un petit peu, dans le cadre d'une des rubriques habituelles de l'émission, le livre traduit du jour, eh bien, on ne va pas compliquer les choses, et on va t'entendre lire le début de Sanak, dont on a parlé, dont tu nous as gentiment parlé tout à l'heure. Donc c'est le début, le tout début donc, de cette traduction par Bernard Saladin d'Anglure, publiée aux éditions des Paysages en 2022.
Tout à fait, donc Sanak, Demi-Tiarjouk, Napalouk. La cueillette de Boulonnin. Une femme, Sanak, c'est son nom, se met en marche et passe par la grande plaine, le Grand Piémont. Elle s'éloigne peu à peu, suivie par ses deux chiens, Kadjoualouk et Kirnik. C'est alors qu'elle aperçoit des perdrix blanches sur son chemin et se prépare à les tuer à coups de pierre, mais les chiens se lancent à leur poursuite et Sanak s'époumonne pour tenter de les retenir. « Aou ! Aou ! Kadjoualouk ! Aou ! Aou !» Ils font fi de ces appels et continuent leur poursuite. Cela pour effet de faire envoler les perdrix blanches. Dépitée, Sanak continue sa marche jusqu'à son terme. Là, elle s'apprête à prendre seule son Ouloukoumitak et à aménager un foyer. Avec un petit récipient de métal qui lui sert de théière, elle puise de l'eau dans une petite mare, puis dispose quelques pierres à l'abri du vent et coupe des cassiopes pour alimenter le feu. En attendant que le thé chauffe, elle mange de la viande séchée et du gras. C'est alors que ses deux chiens, couchés en boule à côté d'elle, se mettent à fureter dans les restes des croûtes de viande et des os. Kadjoualouk s'étrangle vivement en croquant un os. Sanak a alors très peur et se demande tout émue comment l'aider à se débarrasser de l'os. Elle se souvient soudain qu'il lui reste un peu de gras et elle se dit en elle-même « Si je lui faisais avaler de gros morceaux de gras, il pourrait sans doute se débarrasser de l'os. » Elle donne effectivement au chien tout ce qui lui reste de gras. Et voilà que les morceaux de gras font descendre l'os dans la gorge de l'animal et le libère. Elle peut maintenant boire son thé directement de son petit chaudron, car elle n'a pas de gobelet. Je m'arrête là.
Et c'est donc Céline Kipit, hein, c'est le début du roman.
Céline Kipit, et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. On voit tout à fait qu'il y a la trace de la commande, à savoir qu'on parle du quotidien, mm-hmm. avec des gestes, des objets du quotidien qui vont être retranscrits. Et en même temps, quand on lit la suite du roman, le personnage de Sanak, il est déjà là tout entier. Mmh. Savoir que Sanak, comme je l'ai dit, c'est une femme qui a une agentivité très forte. Et c'est une femme qui va avoir un pouvoir décisionnel très grand. Et elle sait ce qu'il faut faire, à quel moment elle ne tarde jamais à prendre une décision. C'est quelqu'un qui tranche. Et là, on le voit avec cet incident de l'os dans la gorge du chien. Voilà, c'est toujours elle qui, au final, va faire les choix. Et ça, du début à la fin, ça va être comme ça. C'est une femme forte.
Ok, mais effectivement, et normalement, voilà, on voit qu'il y a toute la dimension littéraire aussi, sur la dimension de création aussi d'une voix intérieure, d'un point de vue interne, etc. Donc c'est alors moi je l'ai pas lu. Je dois dire la vérité, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore lu. Ça finira par venir, mais effectivement, ça donne envie de le lire. Alors il y a au moins, il me semble, au moins un terme en Inuktitut. Donc je crois que c'est un livre dans lequel il y a des notes aussi, ou un glossaire ou des notes.
Oui, il y a beaucoup de notes. C'est ce que je disais. Qui font un peu écran des fois. Alors évidemment...
Pour toi, les notes, elles enlèvent à la littérarité du texte?
Pas toutes. Par exemple, il y a une note sur les onomatopées que j'ai essayé de dire comme je pouvais. Là, le « aou, aou ».
D'ailleurs, tu es la première de toutes les invitées à faire exploser les rouges dans la balance audio.
Je vis le texte. Hein. Moi, je suis sur la banquise, là. On dirait pas, mais...
Non, mais voilà. J'en doute pas.
Et donc,
dans le studio de Radio Campus, il fait quand même plus chaud que sur la banquise.
Cette onomatopée, il y a une note parce qu'elle n'a pas été traduite. Ça veut dire « venez vers moi ». C'est vraiment l'onomatopée qu'on utilise pour les chiens.
Je pensais que c'était une imitation de l'aboiement. Tu vois.
Alors, peut-être
que les notes servent à quelque chose quand même.
Par contre, il y a des fois, dans ce texte, il y a parfois des notes Par exemple, j'avais dit, elle s'apprête à prendre seule son nouloug mi-tac. Et là, il y a une note qui nous dit que c'est le repas du milieu de la journée. Alors là, pourquoi est-ce que ce n'est pas traduit déjeuner, quoi, en fait, au moment donné.
Oui, parce que c'est... ou alors, on ne laisse pas de notes. On ne met pas de notes et on laisse le lecteur se réorienter comme il le peut, en se disant que je suis européen, je ne connais pas cette culture, donc c'est à moi de reprendre mes repères. Ou alors, on traduit carrément.
Oui, là, on a la trace du travail de l'anthropologue. Hein. C'est le texte de Saladin d'Anglure. Et voilà.
Il ne veut pas renoncer ni au terme, ni à son explication.
Oui,
en fait.
Mais c'est des choix qui sont difficiles aussi.
Oui. Bon, c'est des choix qui se posent à des traducteurs et à des éditeurs qui n'ont pas de biais anthropologique non plus. Mais on est peut-être...
Mais vraiment, il y a parfois des notes. Là, c'était pas si évident que ça sur le début, mais il y a parfois des notes où on se dit pourquoi ça n'a pas été traduit à un moment donné.
Bon, ensuite, c'est des débats.
Oui, c'est des débats
infinis.
Ouais, ouais, tout à fait.
On va peut-être, avant de se quitter, dire un mot à propos du français, des avertissements aux lecteurs qu'il y a parfois sur certains ouvrages des éditions des paysages. Je sais que un livre que j'ai lu récemment des éditions des paysages, qui est paru, je crois, là, en début d'année, c'est Cœur infime de Billy Ray Belcourt, qui est traduit de l'anglais par Michka Lavigne. Et je vais peut-être lire l'avertissement qui est, je crois, enfin, qui est une variante de l'avertissement qui se trouve sur d'autres ouvrages. À la lectrice, au lecteur, le texte que vous vous apprêtez à lire a été traduit de l'anglais canadien au français canadien par Michka Lavigne. Il n'a fait l'objet d'aucune adaptation à destination du lectorat de l'Europe francophone. Seuls quelques termes et expressions font l'objet dans un lexique organisé par chapitre d'une note explicative. L'éditeur. Donc ça veut dire que d'entrée, parce que là c'est vraiment au tout début, c'est en page 5 ou 7 ou juste avant le début du texte, il y a une annonce pour nous autres lecteurs européens qu'il faut qu'on se décentre un petit peu et que ce sont des textes qui ne s'adressent pas en premier à nous et à notre langue à nous. Oui. Et je pense qu'on retrouve ça. Oui,
on retrouve ça dans tous les. Dans beaucoup de livres de chez des paysages, puisque les livres qui sont publiés sont essentiellement des livres qui sont publiés en français et qui ont été écrits en français.
Oui, c'est vrai qu'il faut le préciser.
Oui,
on parle des traductions là aujourd'hui, mais il y a beaucoup de textes qui sont des textes originaux.
Voilà, par exemple, j'ai sous les yeux le livre Kitschiké de Louis-Carl Picard-Sioui. Louis-Carl Picard-Sioui, c'est un Inou, c'est un activiste aussi, d'ailleurs très important au Québec. C'est un artiste qui multiforme.
Qu'on peut suivre sur Instagram.
Voilà, qu'on peut suivre.
Et en s'abonnant à son compte, on peut s'abonner à ILMC 2025.
Oui, et donc, pour ce texte, donc il y a l'éditeur, Amaury Le Villayer, a écrit à la lectrice, au lecteur, le français québécois est une langue, ni un dialecte, ni un patois, une langue à part entière, proche du français hexagonal. Et voilà. Et donc, c'est pour indiquer que le français qu'on va trouver dans ce roman peut nous étonner, mais le québécois est une langue. C'est cette idée de québécois comme langue, c'est quand même
c'est important.
Et c'est important.
C'est important de le dire, effectivement. Et donc, on est vraiment dans une perspective, ce que je disais, de décentrement, d'inviter aussi les lecteurs à se décentrer et à ne pas considérer leur langue comme la seule langue, même quand on est à l'intérieur de langues qui se ressemblent apparemment. C'est vrai que parler du français du Québec comme d'une langue à part entière, c'est aussi un geste politique de la part de l'éditeur.
Bien sûr.
Et c'est important.
Que tu pourras inviter peut-être un jour.
Écoute, l'invitation est lancée. S'il nous écoute, Amaury Le Villayer, bien entendu, sera le bienvenu dans le studio de Radio Campus Tours pour I Love Mes Cheveux. Eh bien, nous allons pouvoir nous dire au revoir. Merci d'avoir écouté la 8e émission de I Love Mes Cheveux, toujours avec Julien Jacob en générique, Nel, tiré de l'album Talam City. Merci à Claire Tasté qui reviendra de temps à autre co-animer, je pense que c'est un engagement.
Si tu le dis.
On verra.
Oui.
Pour toute réaction, demande, suggestion, pour participer à l'émission, le compte Insta est là, ILMC 2025. I'm so. Dans les semaines qui viennent, il va y avoir un certain nombre d'émissions. Alors la semaine prochaine, je ne peux pas encore vous dire exactement qui nous aurons, parce que c'est encore un petit peu en discussion. Mais ce qui est certain, c'est que soit la semaine prochaine, soit le lundi 5 mai, nous écouterons trois collègues du pôle RI des tanneurs et du QFE. Et vous avez donc une semaine, voire deux, pour apprendre à quoi correspondent les six lettres du sigle QFE. Et en mai, dans tous les cas, il y aura plein de surprises et au moins deux émissions avec des étudiantes de licence. Stay tuned et bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM.